de dire vos questions ou vos objections. Ne gardez jamais dans le cœur une interrogation. Parce que vous risquez à ce moment-là de dire à droite, « Ah, dans le cours, le père Philippe a dit ceci. » Et puis c'est répété. Alors, il y a une espèce d'honnêteté. Je vous ai dit, ce cours, il est très spécial, puisque, au fond, on essaie d'avancer dans quelque chose où on est obligé de dire qu'on entre dedans et on essaie de dire ce que, ordinairement, les thomistes ne disent pas. Comme si Thomas d'Aquin était en dehors de ça. Alors que Thomas d'Aquin parle d'une théologie mystique. J'ai lu ça dans le temps et je ne pouvais pas retrouver le lieu. Mais dans les débuts, je crois que c'est dans les noms divins. Si vous retrouvez le lieu, vous me le direz. Parce que c'est intéressant de voir que saint Thomas en parle. C'est sûr que saint Thomas en parle, puisque lorsqu'il voit les béatitudes, il les voit au terme, toujours, des questions. Comme si c'était le point de départ d'une autre vision. Alors, tout spécialement pour le cours de théologie mystique que nous faisons ensemble, s'il y a des questions, posez-les. Une question n'est jamais bête, dites-vous ça. Donc même si, quelquefois, on sourit, mais c'est jamais bête. Très utile que ça marche, parce qu'à 2 heures, un cours à 2h30, tout le monde dort. Vous pouvez rien, c'est à cause de moi que c'est échangé d'heures, et c'est pour une œuvre de miséricorde, comme pour la miséricorde, il faut faire tout ce qu'on peut. Alors, il y a une question.
Alors, il y avait une question juste, vous avez dit en terminant le cours...
Lui, il pose toujours des questions, parce que quand il ne les comprend pas, il pose la question. J'aime mieux ça. Mais il faudrait que chacun d'entre vous fasse ça. Quand vous avez des questions, vous les posez par l'intermédiaire de lui. Mais en écoutant, il peut y avoir des choses. Tiens, qu'est-ce qu'il veut dire là? Je comprends pas. Alors, vous le notez. C'est la seule façon d'avancer, du reste, au point de vue spirituel. Au point de vue théologique, d'une façon générale. C'est que toutes les interrogations qu'on a, si on ne les pose pas, elles demeurent une interrogation. Donc un bouchon. Quelque chose qui arrête. Alors que si on donne la solution, ça avance. Alors,
vous avez dit la dernière fois, en terminant le cours au sujet de l'Eucharistie, qu'elle n'était pas contenue dans la grâce, mais qu'elle était contenue dans le Christ.
Oui.
Est-ce que vous pourriez revenir dessus?
Et je sais que certains d'entre vous ont choqué. Et c'est très vrai. Et j'ai pris là, dans la grâce, j'aurais dû dire, dans la ratio graciée. C'est-à-dire dans la grâce et dans la raison de grâce. Ce n'est pas contenu dans la grâce de justice originelle. Vous voyez bien que ce n'est pas contenu dans le ratio gratier. Puisque c'est propre à la grâce chrétienne, les sacrements. Donc c'est contenu dans la grâce chrétienne. Et les sacrements me font comprendre le mode chrétien de la grâce. Alors ça, c'est très important. Et ça montre qu'il y a dans les sacrements, dans la vie chrétienne, un mode propre pour la grâce, qui s'explicite par les sacrements. Les sacrements n'existaient pas en justice originelle. C'est curieux, mais ils n'existaient pas. Les sacrements n'existent qu'en justice chrétienne, à cause de la croix. C'est le mystère de la croix qui nous est donné à travers les sacrements. Et dans l'Ancien Testament, s'il y a comme des sacrements, il y a des signes, c'est en vue de la croix. Vous voyez, les sacrements sont préparatoires à la croix dans l'Ancien Testament, les sacrements sont propriété de la croix dans le Nouveau Testament. Et c'est le mode particulier de la grâce chrétienne. Pour comprendre la grâce chrétienne, il faut regarder à travers les sacrements. Et quand je dis à travers les sacrements, c'est-à-dire à travers le mystère de la croix du Christ. Alors, la grâce chrétienne éclate dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Et la grâce chrétienne a comme sept modalités. Elle a comme sept modalités. Pas toujours, puisque tout le monde n'a pas le sacrement du mariage. Donc, il y a six modalités, et six, non, tout le monde n'a pas l'ordre. Donc, il n'y a que cinq. La grâce chrétienne est donnée dans les cinq modalités. On voyait ce matin, à propos de la grâce, la grâce ultime, le secours pour l'arrivée au ciel. Oui, il y a un sacrement là-dessus. Donc l'article de saint Thomas doit s'éclairer par le sacrement de l'extrême onction. L'extrême onction, c'est pour nous donner une fidélité ultime. Et cette fidélité ultime, c'est justement cette grâce nouvelle que le Seigneur nous donne pour être fidèle jusqu'à la fin. Je ne reçois pas le sacrement d'extrême onction comme je reçois le sacrement de pénitence. Le sacrement d'extrême onction a quelque chose de particulier. Il prépare à la vision béatifique. C'est l'ultime fidélité. Et cette fidélité, on a besoin d'une grâce particulière. Vous voyez ? Alors, ce que dit saint Thomas dans l'article, vous voyez, la confirmation avec le sacrement. Ce matin, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Parce que ce matin, on voyait uniquement saint Thomas. Saint Thomas n'en parle pas. C'est pas étonnant. J'en parle tout de suite quand je regarde la grâce chrétienne, explicitement. Alors, dans la grâce chrétienne, c'est vrai, il y a l'extrême onction. Et l'extrême onction est une grâce qui permet l'ultime fidélité. Donc la fidélité dernière. Et cette fidélité dernière est est un mode particulier de la grâce, qui n'est pas contenu dans la vie ordinaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, scrupuleux, disent « je peux très bien mourir d'un accident, alors donnez-moi l'exemption ». Et je ne peux donner l'extrême-onction que s'il y a une crainte légitime, pas un scrupule, une crainte légitime d'une mort immanente. C'est pour l'ultime étape du voyage. Il y a quelque chose de particulier. On comprend. Donc il y a cinq modalités: le baptême, la confirmation, la pénitence, l'ultime, l'extrême-onction.
L'Eucharistie.
C'est la plus évidente. Tout est ordonné à l'Eucharistie. Et puis, deux sacrements spéciaux qui sont très caractéristiques de la grâce chrétienne. Sont d'une certaine manière les plus caractéristiques de la grâce chrétienne. Le mariage et le sacerdoce. Le mariage n'est pas donné à tout le monde, et le sacerdoce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est la grâce chrétienne en vue de deux situations particulières qui exigent une grâce, la grâce chrétienne spéciale. Oui, c'est intéressant de voir les sacrements dans la perspective de la grâce chrétienne, parce que on ne le fait pas beaucoup, ça. Et c'est très beau de voir que la grâce chrétienne se donne selon ces cinq modalités particulières. La grâce du sacerdoce, c'est pour l'Eucharistie. Et c'est vrai, le prêtre est ordonné à l'Eucharistie. Il n'y a pas de sacrement pour la vie religieuse. Alors vous direz, la vie religieuse n'est donc pas inscrite dans la grâce chrétienne. Au contraire, la vie religieuse est inscrite dans le mystère même de la grâce chrétienne. La grâce chrétienne se développant par la charité, c'est l'ultime moment de la grâce chrétienne, la charité porte en elle-même la grâce de la vie religieuse. La vie religieuse fait partie de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante chrétienne réclame la vie religieuse. Alors elle réclame la vie religieuse institutionnel ou par le désir. tout chrétien doit avoir le désir de la vie religieuse. Ordinairement, c'est ce qui se passe. On voit très bien, dans des ménages très chrétiens, le bon Dieu, très souvent, fait que la femme, la mère, qui avait aspiré à une vie chrétienne très parfaite, demeure 5-6 ans seule, veuve. Et l'Église traitait les veuves au début comme des religieuses. Mais c'est sans doute ce qu'il faudra faire. C'est quelque chose qui était primitif dans la chrétienté. Et ça exprimait quelque chose de très grand, très beau. Et parce que c'est inscrit dans la grâce chrétienne. Et que, très souvent, on voit ça, on le voit moins chez... Mais ça existe pour les hommes aussi. Et les hommes arrivent plus facilement à s'en tirer, alors ça se voit moins. Ce qu'on appelait avant des vocations retardées. Vous avez la grâce chrétienne qui s'épanouit par le sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas source de sainteté personnelle, mais le sacerdoce est source de sainteté à l'égard de la charité fraternelle. C'est le sacerdoce qui fait que nous nous tournons vers nos frères, vers nos sœurs. Et nous considérons, dans le regard du Christ, et avec le regard du Christ, qu'il est bon de donner sa vie pour le prochain. Que le Seigneur réclame qu'on donne sa vie. Et donc, on ne se sanctifie plus uniquement pour soi, on se sanctifie pour les autres. Les fidèles désirent que leur prêtre soit complètement donné au Seigneur. Donc, qu'il soit par le désir religieux. Et le Saint-Père l'a dit dans la lettre qu'il écrit au prêtre, je dis ça, il a dit, tout prêtre doit avoir par le désir la vie religieuse. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait dans l'Église la vie religieuse. Il dit au sacerdoce. Rappeler ça. Comme... Parce que c'est inscrit dans la grâce chrétienne. La grâce chrétienne venant du Christ crucifié met en elle cette exigence d'offrir notre vie pour le Christ, pour la gloire du Père. L'exigence du martyr. Et la vie religieuse, c'est le martyr. Faut pas l'oublier. C'est le martyr, non pas sanglant, mais c'est le martyr quotidien. Donc c'est un martyr abtigé. Et qui est quelquefois beaucoup plus dur que d'avoir la tête coupée. d'accepter tous les jours son frère à côté de soi. Un frère non choisi humainement, choisi divinement. Et quelquefois, on choisit même humainement, mais il est choisi divinement avant tout. Et il ne faut pas oublier qu'au fond, la vie religieuse implique la grâce du martyr. On les distingue, ça c'est... Je ne crois pas que Dieu les distingue dans le ciel. Parce qu'on peut être martyr par le don complet de tout soi-même. C'est vrai, la vie religieuse implique une vie commune, et une vie commune qui est toujours sanctifiante, humiliante, écorchante. Ça peut aller jusque-là. Alors, il y a un sacrement de mariage qui montre, il y a le sacrement du sacerdoce qui montre cette. Dans la grâce chrétienne est impliqué le don de la vie pour le prochain, le don de sa vie propre, pour la vie surnaturelle du prochain. Ce que Jésus a réalisé à la croix, ça fait partie de la grâce chrétienne. Et la grâce chrétienne implique la sanctification du mariage. La grâce du mariage, la sanctification de la vie à deux. Sacrement dans la grâce de justice originelle. La grâce suffisait à s'épanouir dans la charité fraternelle. C'est très étonnant de voir que dans la grâce chrétienne, il y a un sacrement spécial pour la charité fraternelle du mariage, parce que le péché a augmenté la concupiscence charnelle. Le péché a mis une espèce de déséquilibre entre l'appétit normal transformé par la charité fraternelle et l'exigence même de l'amour de Dieu. Le péché, par la passion, a fait que la charité fraternelle est particulièrement visé par le péché, la concupiscence charnelle. Alors, pour vivre d'une façon qui soit sainte et sanctifiante, il y a le sacrement. Empêcher le débordement passionnel. Et mettre un équilibre nouveau entre l'amour de l'homme et de la femme. ça qu'il y a deux sacrements distincts. Les sacrements d'ordre et les sacrements du mariage. Mais vous, l'ordre et le mariage, vous voyez, explicitent quelque chose qui n'est pas immédiatement l'amour à l'égard de Dieu. Ce sont les deux sacrements qui sont orientés vers la charité fraternelle. Le mariage et l'ordre. On est prêtre pour le prochain. On n'est pas prêtre pour soi. Vous voyez, on est sanctifié par la vie religieuse pour soi. Tandis que le mariage et le sacerdoce, c'est la sanctification de la charité. C'est sûr, il y a un lien très fort entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais il y a quand même cette diversité entre les deux. Je crois que la contemplation des sacrements nous permet de voir toutes les exigences profondes de la grâce chrétienne, de saisir ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à la grâce chrétienne, ce qu'il y a d'unique dans la grâce chrétienne, qu'on ne verrait pas avec autant de force et autant de lumière si on ne regardait pas les sacrements. Si, quand on ne regarde pas les sacrements. Et il y a là tout un aspect qui est très souvent un peu négligé. On ne pense pas que les sacrements nous manifestent visiblement les exigences de la grâce chrétienne. Et au point de vue théologique et théologie mystique, un très beau livre théologique de théologie mystique réalisé. Parce que ça donne aux sacrements leur finalité propre. Les sacrements sont faits pour faire de nous des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des enfants de la Vierge Marie. Il est évident que c'est l'Eucharistie qui, en dernier lieu, me fait saisir ce qu'il y a d'unique dans la grâce chrétienne. Qu'il faudrait ajouter tout le mystère de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est un signe pour sanctifier notre foi et notre intelligence spéculative, contemplative. Et que les sacrements sont des signes divins pour sanctifier notre intelligence pratique. Explicite pour nous le mystère de notre grâce chrétienne. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu explicite au point de vue de la grâce chrétienne ? C'est la contemplation. Chrétienne implique dès maintenant, dès la vie sur terre, un appel direct à la contemplation. À la contemplation, à la théologie, puisque on fait la théologie à partir de la parole de Dieu et on la fait pour communiquer au prochain la lumière de la vérité. On voit beaucoup la parole de Dieu comme le pain spirituel qui nous nourrit, qui nourrit notre foi, qui nourrit notre espérance et qui nourrit notre vie chrétienne. Mais on voit peu comment le mystère de la parole de Dieu explicite la grâce chrétienne. Vous voyez, comme les sacrements explicitent le côté pratique de la foi chrétienne, la foi chrétienne, la vie chrétienne, est au-dessus de la distinction vie contemplative, vie active. La distinction vie contemplative et vie active est une distinction philosophique. N'oubliez jamais ça. C'est une distinction philosophique. C'est pour le philosophe qu'il y a deux voies. La voie contemplative, théorique, théoria, la théoria et la voie pratique. Mais la vie chrétienne fait l'unité des deux vies. Donc, des vies contemplatives, vie active, au point de vue chrétien, c'est une erreur. C'est transposer, au point de vue chrétien, une distinction philosophique. On peut transposer, n'est-ce pas, des distinctions chrétiennes dans la philosophie, mais on ne peut pas faire l'inverse. Une division, une séparation peut se faire pour ce qui est plus bas, mais pas pour ce qui est plus haut. La division divise toujours ce qu'on regarde et qu'on mesure. La division ne regarde jamais l'aspect contemplatif. Alors, je crois que aujourd'hui, dans le contexte, c'est quand même très important de voir que la distinction vie active, vie contemplative, qui est une distinction philosophique, baigne dans la vie chrétienne. Est essentiellement contemplative. Et cette vie contemplative est pratique. Mais la vie contemplative transforme toute notre vie. Est essentiellement contemplative. Parce que nous attendons la vision béatifique. La vertu d'espérance nous fait attendre la vision béatifique. C'est essentiel à notre vie chrétienne d'attendre la vision béatifique. Et rien n'est plus contemplatif que la vision béatifique. Donc tous, nous sommes essentiellement ordonnés à une vie contemplative. Par l'espérance. Donc tout chrétien est essentiellement ordonné à la vie contemplative. On a dit, il y a deux vies, contemplative et vie active. Non. Il faut dire que la vie chrétienne est essentiellement contemplative et la vie chrétienne est essentiellement apostolique. Toute vie chrétienne a les deux. Mais évidemment, il y a des vies chrétiennes où l'aspect contemplatif est nettement primordial, premier, et où l'aspect de l'activité humaine apostolique et second. Et il y a des vies chrétiennes où on trouve le contraire. Mais si c'est une vie chrétienne, elle est essentiellement contemplative. Et c'est très étonnant de voir que cette distinction philosophique vie active, vie contemplative, a gagné tout le domaine chrétien. Et dans le domaine chrétien, la fine pointe vie contemplative. Que, au point de vue chrétien, on doit voir que la contemplation est essentielle. Contempler Dieu. Et que la vie active de miséricorde est essentielle. Mais le partage des deux est tantôt en faveur de la contemplation, tantôt en faveur de la miséricorde. Il faut bien miséricorde à l'égard des autres. Il faut bien comprendre que la vie chrétienne implique deux orientations. Alors, la vie chrétienne dans son engagement miséricordieux implique des éléments contemplatifs. Et la vie contemplative implique des éléments de miséricorde. Alors, il faut comprendre que le mystère de la parole de Dieu est pour la contemplation, en premier lieu, et aussi pour la vie active. Parce que on ne peut transmettre le message divin qu'à travers la parole. Et donc, à travers l'évangile. Donc, au fond, la distinction est parole de Dieu et sacrement. Point de vue de la grâce chrétienne, c'est plus juste. La parole de Dieu nous est communiquée, nous est donnée. Que la distinction essentielle entre signe pratique et signe contemplatif est une distinction qui est et qui vient directement de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas la vie qui se divise en les deux, parce que la vie chrétienne, c'est la charité, et la charité est contemplative, et la charité est miséricordieuse. Donc, elle est source des deux. La division signe contemplatif et signe actif se fait au niveau des moyens. Et non pas du tout de la fin. Je me sanctifie d'une façon contemplative, je me sanctifie d'une façon apostolique. Qu'est-ce qui sanctifie le plus? C'est ce que le Saint-Esprit veut pour moi. Il y a des saintes qui sont saintes grâce à leur contemplation. Il y a des saintes qui sont saintes grâce à leur mystère de miséricorde. Donc vous voyez, on retrouve cette distinction au niveau des moyens. Sacrement, très curieux ça. Mais au niveau des moyens, des signes, il y a des signes spéculatifs et des signes pratiques. signe pratique, c'est les sacrements, et signe spéculatif, c'est la parole de Dieu. Et tous les deux sont ordonnés à la grâce chrétienne. Et pour la grâce chrétienne, sont ordonnés à l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité. Alors, nous avons vu comment ces signes pratiques des sacrements manifestent la splendeur de la grâce. On peut aussi regarder ces signes spéculatifs qui sont la parole de Dieu et qui sont donnés aux chrétiens pour qu'ils vivent plus profondément de sa foi, de son espérance. Au fond, cette manière de vivre plus profondément de ma foi par la parole de Dieu, que ces signes spéculatifs manifestent, explicitent le mystère de la vie chrétienne, le mystère de la grâce. La grâce se nourrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraiment une nourriture. Découvrir dans le mystère de la grâce chrétienne quelque chose de particulier. Son ordre plus immédiat à la vision béatifique. La parole est ordonnée à la contemplation. Alors, ce serait peut-être par là qu'on pourrait expliciter toutes les qualités de la parole de Dieu. Comme je le fais pour les sacrements, comme on peut le faire pour les sacrements. Il y a une parole de Dieu, c'est vrai, la parole de Dieu nourrit la foi très diversement, nourrit l'espérance et la charité. Alors, je voudrais regarder les diverses formes de la parole de Dieu. Et ces diverses formes de la parole de Dieu manifeste le développement